nous aurons besoin pour les prochaines années des gens convaincus. Ça m'est arrivé quand j'étais en Argentine, qu'un jeune homme me raconta, il était à l'université. Alors il se présente à la faculté des droits, et le professeur, il commence la leçon en disant, si ici il y a des croyants, je les prie de s'en aller parce que je suis contre toute croyance. Il arrête un moment. Il dit rien, personne bouge. Il reprend la parole, il dit encore, j'insiste. Moi, je ne respecte aucune croyance, je suis relativiste, dit ce professeur d'université. Alors, s'il y a quelqu'un qui croit, il lève la main. Alors, 2 sur 80, ils lèvent la main, ils osent lever la main. C'est des catholiques. Mais en Argentine, tout le monde a la croix au cou, hein, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, les professeurs universitaires, il a commencé à attaquer toutes ces doctrines sur l'existence de Dieu, sur la divinité de Jésus-Christ, en essayant de mettre en ridicule les deux pauvres catholiques qui avaient quand même eu le courage de lever la main. Hein, c'était un traditionaliste. Eh bien, dans les prochaines années, nous risquons de faire face à une situation comme ça. Dans les écoles, dans la masse média, etc., il y aura certainement une attaque contre les convictions. Il faut que tout le monde devienne relativiste. Toutes les idées, c'est pareil, toutes les religions, c'est pareil, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Eh bien, si on est préparé, on peut essayer de contrebattre. Mais autrement, il faut répondre avec la foi. Moi, je crois. Mais je t'ai démontré que ça n'existe pas, le bon Dieu. Moi, je crois en Dieu. Mais je t'ai démontré que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je crois à Jésus-Christ. Je t'ai démontré que l'Église catholique n'est pas la vraie. Je crois à l'Église catholique romaine. Nous devons répondre avec notre foi. Je crois. Mais bien sûr, il faut s'y préparer quand même. Il faut avoir, tant que possible, un peu de formation. Comment on démontre l'existence de Dieu? Comment on démontre que Jésus-Christ est Dieu? On élimine l'athéisme, on élimine l'erreur des autres religions. Comment on démontre que l'Église catholique romaine est l'unique et divine, que le Créateur a fondé seulement l'Église? Ça, il faut quand même, surtout les jeunes, n'est-ce pas, qui sont ceux qui sont plus exposés à cette attaque de l'incrédulité, ils doivent se préparer. On a des petites brochures, n'est-ce pas, vous demanderez aux amis de Saint-François des Sales, il y a des petites brochures sur l'existence de Dieu, sur la divinité de l'Église catholique, sur tous les miracles de Lourdes. On touchera un mot, mais l'existence de Dieu, nous devons en revenir continuellement. Comment je sais que Dieu existe? Ben, j'ai les yeux, et quand tu ouvres les yeux, ben, je vois les choses. Tout d'abord, c'est ma pensée qui crée les choses ou sont en dehors de moi. Ben, tu te mets devant un arbre et tu dis, c'est ma pensée qui crée l'arbre, et tu tapes avec la tête. Oh, tu vas voir si c'est ta pensée qui crée. Non. L'arbre est en dehors de moi. Même si je pense qu'il n'existe pas, je suis contre, je ne suis pas d'accord. Il est autre chose que moi. Tout d'abord, ce n'est pas la pensée qui crée. Les choses sont objectives. Et alors, la deuxième question, qui a fait les choses? Il ne faut pas s'habituer à voir les pierres, les montagnes, le soleil, l'air, les plantes, les êtres. Il faut s'étonner qu'ils existent. Comment ça existe? Il y a seulement deux possibilités. Ou c'est une force non intelligente, aveugle, par évolution. Ou il y a une intelligence supérieure, Dieu, ce que nous appelons Dieu. Et comment savoir? Ben, c'est les choses qui doivent te le dire. Et là, je me permets de faire un exemple. Ça m'est arrivé, j'allais en avion de Milan à Rome. Le matin, très tôt, il y avait un billet très, très bon marché. Je monte sur l'autobus qui amène à l'avion, et il y avait deux filles italiennes, féministes, ce que nous appelons les communistes féministes, très bien. Ils voient les curés en soutane, ils commencent à se donner des coups, les curés, bien sûr, deux siècles de moqueries anticléricales, ils en avaient pour jouir un moment, très bien. On en fait ça au bon Dieu, mais on monte sur l'avion. Alors, la providence fait que les deux petits sont si deux chaises plus loin que moi, les couloirs au milieu. On doit attacher la ceinture. Et lorsque l'avion commence à bouger, une des deux vaillantes ennemies, elle se lève comme un peu sur les chaises, et en regardant en dehors de la fenêtre de l'avion, à haute voix, elle dit, on voit pas Jésus, hein, on voit pas. C'était pour qui ça? C'était pour les curés? Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, bon, si on n'a pas le temps de faire des grands discours. J'attends qu'on soit à un niveau de, dans lequel on peut décrocher les ceintures. Je me lève en souriant. Enfin, l'avion, c'était moitié vide, mais elle avait dit assez fort. Tout le monde avait entendu. Je me mets devant elle, là, et je dis, c'est toi qui as dit ça? Non, c'est la copine. Bon, très bien. Elle avait l'horloge. Et je lui demande, mais qui c'est qui a fait ton horloge? L'horloger. Il ne s'attendait pas, c'était un peu fâché parce qu'il ne s'attendait pas que le curé s'élève. Pour... Alors je lui ai dit, mais tu l'as vu? Elle n'a plus répondu. Souvenez-vous, elle a dit, on ne voit pas Jésus, on ne voit pas. Moi j'ai dit, mais tu as vu ce qui a fait l'horloge? Elle a compris un peu le raisonnement. Elle ne répondait plus, alors c'était moi qui répondais tout seul. Non, tu n'as pas vu, mais tu crois? Et les chaussures? Qu'est-ce qu'il a fait, le cordonnier? Mais tu l'as vu? Non. Et tu crois qu'il existe le cordonnier? Sans voir? Oh, formidable! Et la chemise? Mais ça, c'est celui qui fait la chemise, je ne sais pas comment on dit en français. Très bien. Et tu l'as vu? Non. Et tu crois? Oui. Pourquoi? Parce que tout le monde utilise ses principes. La preuve qu'il existe en intelligence, c'est son œuvre. La preuve qu'il existe en intelligence, c'est son œuvre. Tu vois une horloge? Même si tu ne verras jamais l'horloger, tu vas croire dur que c'est un horloger qui a fait ça. Même si tu ne le vois pas, bien sûr. Ça te suffit de voir l'œuvre. La preuve qui existe dans l'intelligence, c'est son œuvre. Tu vois des chaussures. Tu ne verras jamais le cordonnier qui a fait ça. Oh non, jamais. Mais tu vas croire dur que ces chaussures-là ont été faites par un cordonnier. Il faut un minimum d'intelligence. Beaucoup ou peu. La preuve qui existe dans l'intelligence. Bon. À la petite de l'avion, je lui ai fait seulement l'exemple de l'horloger. J'ai dit, tu as vu l'horloger? Non. Et tu crois qu'il existe? Parce que tu utilises ses principes. La preuve qui existe en intelligence, c'est son œuvre. Alors je lui ai posé la question, dis-moi maintenant, est-ce qu'il faut plus d'intelligence à l'origine d'une horloge ou d'une fourmi? Ciao, je vais m'asseoir. Ah, bien sûr, écoutez, si pour faire une horloge, même si on ne voit pas l'horloger, tu crois dur qu'il faut l'intelligence de l'horloger. Une fourmi, qui est beaucoup plus compliquée qu'une horloge, il y a des fourmis qui sont très petites, il y en a qui sont plus grandes, mais ils ont quand même la bouche, l'estomac, le système nerveux, les veines, les entrailles, même les Japonais, ils ne peuvent pas faire ça. Comment je sais qu'il existe Dieu? Mais les perfections des choses... Vous devez devenir des aimants de la création, mais en voyant les créateurs dans la création, dans la créature. Pleins sont les ciels et la terre de ta gloire. Voyez, nous avons besoin les prochaines années des gens convaincus. Besoin des gens qui, ils arrivent eux-mêmes, même si tous les autres ils sont contre, avoir une telle conviction dans son château intérieur. Nous avons une âme, vous n'êtes pas seulement un corps. Vous avez une âme et votre âme s'intéresse à l'appel le château intérieur. Il y a 7 demeures. On a vu déjà ce matin un peu ça. Et tous les buts de la vie, c'est de rentrer dans ces demeures. Donc les prochaines années, qui va rester debout au milieu de cet athéisme, au milieu de cet relativisme? Ben, des gens convaincus. Des gens qui ils regardent une fourmi, ils regardent une fleur, ils disent, mais une force non intelligente, comment on peut faire ça? Ils regardent l'œil humain, et ils se demandent personnellement, éteignez la télévision, il faut éteindre la télévision, il faut réfléchir personnellement. Mais comment une force non intelligente peut faire l'œil humain? Quand j'ai fait ça dans une seconde, j'ai fait 60 photos, disent les livres d'anatomie. Il faut prendre les livres d'anatomie, les corps humains, c'est une merveille. Dans une journée, l'œil humain fait 1 million de photos. Et les soirs, tu n'as pas besoin de changer les films. Non, non, non. Mais c'est magnifique. Alors, comment c'est possible qu'une force non intelligente soit capable de faire ce que moi, que je suis intelligent, on n'est pas capable de faire un œil humain. Vous croyez que les Américains, ils arrivent à faire une fourmi, mais s'ils auraient réussi à faire une fourmi en partant de la matière sans vie, minérale, mais tous les jours, on aura les photos dans les journaux de la fourmi américaine, bien sûr, diabétique, un peu boiteuse, mais enfin, non, même pas, ils n'arrivent pas. Et comment ça existe? Ne vous habituez pas aux créatures. Le bon Dieu a choisi de se faire connaître. La première révélation d'Épi 12, c'est la nature, la création. Plein sont le ciel et la terre de votre gloire. Alors même si, comme on disait ce matin, les gens du Valais, les Suisses, ils perdent la foi, ils vivent sans Dieu parce qu'ils se lèvent le matin, ils ne font pas les signes de croix, ils se couchent le soir, ils ne vont pas faire une acte d'amour à Dieu. Même si les autres, ils vivent comme si Dieu n'existait pas, mais vous, remplissez-vous, faites chanter cette nature, la création. Ce que je vous disais ce matin, Saint Jean de la Croix, il appelle ça la musique silencieuse. J'insiste parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment les saisir. Si tu regardes la nature et tu es plein de télévision, elle ne te dira rien. Mais si tu éteins la télévision et tu laisses parler, chanter les créatures, ils vont te dire Dieu, 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 toutes les pierres, les étoiles, le soleil, les montagnes, les fleurs. Maintenant, ils vont pousser. Hein? Maintenant, on aura le spectacle cette année, le printemps. On aura toute la floraison des arbres fruitiers. Mais c'est magnifique. Est-ce qu'il y a encore des gens capables de mettre le nez dans une fleur d'abricotier? Mais qui a fait ça? Une force aveugle? Une force non? Non, Dieu pour toi. Pour toi. Tu as seulement une vie pour te rendre compte que Dieu existe et la beauté de Dieu. Parce que si les créatures sont belles, quelle confiance nous donne savoir que chaque printemps, le bon Dieu, il donne une quantité de fleurs qui après il fait tomber et l'année prochaine il en fera d'autres. Mais Dieu donne ses biens avec surabondance. C'est l'évangile de Saint Matthieu d'ailleurs qui le dit, Dieu est bon. Il donne le soleil et la pluie aux bons et aux méchants. Mais un théologien qui faisait les commentaires, le père Barrière, il nous souvenait, il nous rappelait souvent ça. Mais Dieu est plus que bon. Parce qu'il donne tous ses biens avec surabondance, même aux indignes. Mais Dieu, disait ce théologien, est maximum. Pourquoi? Parce que ses biens, il les donne avec surabondance, même aux ingrats, ceux qui ne disent pas merci mon Dieu. Et c'est vrai, hein? Tu verras, vous verrez. Le soleil, l'air, les fleurs, les fruits. Tout sera donné par les bons dieux à ces hommes qui ne pensent plus au bon Dieu. Et alors il ajoutait, le père Marielle, il disait, mais Dieu est plus que Maxime, parce que ses biens, il les donne avec surabondance, même à ceux qui ne veulent pas les recevoir. Tous ces intellectuels, professeurs d'université, qui nient l'existence de Dieu, bah, le matin, ils prennent leur café de Dieu, la cigarette du bon Dieu, les fruits du bon Dieu. Voilà, très bien, voyez. C'est qu'on ne peut pas échapper. Le bon Dieu nous a fait un siège d'amour, mais, attention, il faut encore le reconnaître. La musique silencieuse, il faut laisser parler les choses. Comment je sais que Dieu existe? D'abord pour la foi, bien sûr. Avec les baptêmes, on a reçu le don de la foi. Mais après, avec la raison, en réfléchissant, on ne voit pas Jésus, disait la communiste italienne. On ne voit pas Jésus. Et moi, j'aurais pu dire, on ne voit pas l'horloger. On ne le voit pas, mais tu vois l'horloge. On ne voit pas Jésus, mais on voit les fourmis, on voit les fleurs, on voit l'œil humain. La preuve qu'il existe l'intelligence, c'est son œuvre. Et je rappelle aussi, il y en a alors ceux qui disent, oui d'accord Dieu, oui, mais il suffit d'avoir un Dieu. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit le Dieu catholique, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir un Dieu. Vous imaginez, vous qui êtes parents, que votre enfant, il vient à la maison et vous dit, maman, tu sais, l'important, c'est d'avoir une maman, mais qu'il soit toi, qu'il soit la voisine, c'est la même chose. Non, ma petite, viens ici, c'est moi, écoute mon histoire, ma personnalité. Vous accepterez pas que le petit vienne vous dire, l'important, c'est d'avoir une maman, mais que c'est toi, que c'est toi. Non, non, c'est la même chose, c'est le bon Dieu. À ceux qui disent, l'important, c'est d'avoir un Dieu, mais c'est pas vrai. Que Dieu soit en trois personnes, comme dit la révélation chrétienne, ou que Dieu soit une seule personne, comme disent les juifs qui sont restés à l'Ancien Testament, ils n'acceptent pas la révélation du Nouveau Testament, la Trinité, ou les musulmans, mais ce n'est pas la même chose, on n'a pas le même Dieu. Imaginez, pour comprendre cela, une famille. Pour comprendre comme le bon Dieu ne peut pas souffrir. Mais comme on peut l'offenser, le blesser par cette phrase qui est dite si facilement pour tous les chrétiens, maintenant les catholiques même, modernistes. Oh, l'importance d'avoir un Dieu. Imaginez cet exemple. Il y a une famille avec 3 enfants, 4 enfants. Des méchants, ils décident de voler les enfants. Et une nuit, ils arrivent, ils rentrent dans la maison, un coup de bâton sur la tête du papa, on jette la maman de côté, et on prend les enfants, et on les amène. Et il part. Et imaginez bien sûr, les jours après, la nuit même, le papa et la maman ils commencent à chercher leurs enfants, ils ne les trouvent pas. Recherche, 1 mois, 5 mois, 10 mois, 1 année, on ne trouve pas. Et un jour, une nouvelle, on les a vus en Argentine. Ah, très bien, voilà. On prend l'avion. Vous imaginez, trouver les enfants. On va les chercher en Argentine. Mais les bandits leur avaient dit, attention, ne les cherchez pas, autrement on va vous tuer et tuer les enfants. Avec 1000 précautions, ils vont essayer de savoir où ils sont. Ils vont trouver, bon, c'est dans une grange. Alors, entre le jour et la nuit, ils s'approchent pour voir si c'est vrai, si sont leurs enfants. Et imaginez maintenant que ces papas et cette maman, ils s'approchent et voient dans les jardins les 3 enfants, mais avec un homme et une femme qui se font passer pour papa et maman. Désormais, ils les ont habitués, peut-être c'est 2-3 ans après. Et le papa, il entend l'aîné des enfants qui appelle l'homme et lui dit, « Papa, tu me laisses jouer au football ?» Qu'est-ce que doit sentir le vrai papa? Entendre sa créature appeler papa, un autre homme. Et quelques moments après, la fille, la deuxième, appelle la femme et lui dit, « Maman, tu me donnes un peu de goûter ?» Celle qui s'est fait passer pour maman. Qu'est-ce qu'il doit sentir? Le cœur de cette maman. Eh bien, c'est ce qui sent notre Seigneur et la Sainte Vierge lorsqu'il voit une quantité d'humanité appelée papa, les Mahoma, la maman, la Dea Kali, les autres, les faux dieux. Et les catholiques d'aujourd'hui, ils disent facilement, on a le même Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'accepterez pas, vous, que votre enfant, il vous dit, l'important c'est d'avoir un papa, mais qu'il soit toi, qu'il soit le voisin, c'est la même chose. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la même chose. Alors cette foi qui sont en train de nous enlever par cet relativisme, il met toutes les religions sur le même plan, comme il a fait le pape Assise. Ils disent qu'on a les mêmes dieux. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que sont la très sainte Trinité, la Sainte Vierge au ciel, lorsqu'ils voient ces catholiques qui doivent l'appeler Jésus et Marie par leur nom, par leur identité personnelle, c'est des personnes qui disent facilement, les catholiques, voilà, très bien, et l'important c'est d'avoir une seule Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Alors nous devons faire réparation. Après cette conviction, les prochaines années, on aura besoin d'hommes et de femmes convaincus. Après cette conviction que Dieu existe, éliminer l'erreur de l'athéisme, d'ailleurs dans toutes ses formes, il n'y a pas seulement la doctrine athée, c'est une culture de l'athéisme dans la télévision, dans les écoles. Il y a un modèle de vie, une façon de vivre athée. C'est-à-dire, il y a des gens qui ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, ils ne pensent pas à Dieu. Ça, c'est de l'athéisme pratique. Lorsqu'ils nous disent que le communisme est mort, ce n'est pas vrai. C'est tombé le mur de Berlin. Mais la Sainte Vierge avait dit à Fatima que les erreurs de la Russie, ils iront dans le monde entier. Eh bien, c'est la révolution culturelle marxiste. Ce n'est pas les tanks, ce n'est pas les fusils communistes, c'est la culture. C'est Gramsci, un communiste italien qui a inventé la révolution culturelle. Il a dit, il faut faire vivre les gens dans l'athéisme. Après, ils seront doctrinellement athées. Et regardez les Suisses, les Valaisans. Mais sans faire jugement téméraire, mais ils se lèvent le matin comme les Italiens chez moi, je le sais très bien. Ils se lèvent le matin, mais ils ne passent pas au bon Dieu. Ils ne font pas une signe de croix. Ils passent toute la journée Ils se couchent le soir, ils n'ont pas un acte d'amour, de confiance, de foi en Dieu. C'est l'athéisme, c'est la victoire. Les erreurs de la Russie dans le monde entier avaient raison, la Vierge de Fatima. Ce n'est pas les tanks, c'est la révolution culturelle athée qui est en train de gagner les Valaisans, qui est en train de gagner les Suisses et les Italiens et tous les Européens. Les erreurs de la Russie dans le monde entier. Alors, cette conviction, les prochaines années, nous avons besoin d'être convaincus, Dieu existe. Je crois pour la foi, mais la raison. Souvenez-vous, l'exemple, l'horloge. Tu vois l'horloger? Non. Alors, il n'existe pas. Oui, il existe l'horloge, doit exister l'horloger. La preuve qu'il existe en intelligence, ça sonne une fourmi, une affleur, l'œil humain. Alors, gardez cette conviction. Et pour l'existence de Jésus-Christ, moi je vois, je vais toujours, tout de suite, tout droit au miracle de Lourdes. Sont si importants, sont si forts les miracles de Lourdes. Nous avons besoin de les rappeler à chaque moment. Vous savez ce qui s'est passé, ça démontre déjà la divinité de l'Église catholique et donc la divinité de son fondateur, Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus-Christ, pour montrer que lui n'est pas un homme, mais Dieu fait homme, c'est autre chose. Ce n'était pas pour la couleur des yeux, ce n'était pas pour la couleur des cheveux qu'on croyait à Jésus. C'est parce qu'il a ressuscité des morts, vraiment morts, et il a créé la matière du rien. Il est Dieu par miracle. Autrement, on ne va pas se faire tuer pour Jésus-Christ. Et 4 fois dans l'Évangile, il nous parle des résurrections des morts. La création de la matière du rien. La multiplication des pains et des poissons. Mais tous les... Et l'Église, regardez dans les temps de Pentecôte, vous verrez. Hein, il nous rappelle tout le temps les miracles de Jésus-Christ. Il n'est pas un homme, et Dieu fait homme. Et comment il va montrer ça? Ben, il doit faire des choses que ni les hommes ni les démons ne peuvent pas faire. Les démons, ils peuvent faire la prestidigitation, faire un peu de théâtre. Ce n'est pas des miracles, les hommes. Les démons, ils peuvent faire des prodiges. Ah oui, attention, ce sont des anges. Ils ont un pouvoir sur la matière plus que les hommes. Donc, ils peuvent faire bouger une statue, ils peuvent la faire pleurer, ils peuvent soulever un corps. Mais deux choses, ils ne peuvent pas faire le démon. La résurrection du mort, vraiment mort, parce qu'il y a une mort apparente, et la création de la matière du rien. Ça, c'est seulement Dieu. Et lorsque Jésus-Christ, il a voulu montrer aux apôtres que lui n'était pas un homme, mais Dieu fait homme pour l'incarnation, ben, il a ressuscité des morts, il a créé la matière du rien, il a fait aussi d'autres choses. Si vous croyez que c'est facile de ressusciter un mort, allez au cimetière des Rides. Il y a certainement quelqu'un qui est mort ce jour. Si vous voulez, on vous enlève la terre. Et vous vous mettez devant et vous disiez, lève-toi. Plus fort. Lève-toi. Mais écoutez, vous n'allez pas croire que vous êtes resté mort quand même. Jésus-Christ. Mais c'est écrit dans l'Évangile. 4 résurrections de mort. La fille du centurion, le fils de la veuve de Naïm, la résurrection de Lazare, la résurrection de soi-même, et on sait que l'Évangile, c'est un résumé qui a été écrit dizaines d'années après Jésus-Christ. Et Saint Jean, il a dit beaucoup plus de choses qu'on a écrit sur l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit dans la résurrection de Lazare? Regardez bien la scène. Personne, parole, action, comme dit Saint Ignace. Jésus-Christ se met devant le sépulcre de Lazare. Il dit, enlevez la pierre. Marie Madeleine, c'était la pécheresse convertie. Il dit, non Seigneur, il pue déjà. 4 jours qu'il était mort. Dans les pays chauds, on ensevelit les morts. Les jours même, ou les jours après, j'ai vu au Mexique, en Argentine, parce qu'il se décompose. Là, c'était 4 jours après déjà. Il n'y a pas un signe plus sûr de la mort que la décomposition, la putréfaction. Et Jésus répond à la Magdalène, je t'ai pas dit que je suis la résurrection et la vie. Il s'attribue des caractères divins. Enlevez la pierre. Alors, 2 paysans, ils enlèvent la pierre, c'était une grosse pierre à l'époque. Et Jésus-Christ se met devant le sépulcre et dit, Lazare, lève-toi. Et les morts ressuscitent. Il y a là les évangélistes, il y a là les apôtres. 2 parmi eux sont évangélistes, Saint Matthieu et Saint Jean. Et les 2, ils écrivent, nous avons vu ça. Je l'ai vu avec mes yeux, il était mort en putréfaction, il a ressuscité. J'écris ça et je vais témoigner avec la mort. Ils sont tous morts martyrs en leur disant de régner Jésus-Christ, ils n'ont pas régné. Ce qu'ils avaient écrit,
Ils l'ont témoigné avec le sang, les martyrs.
Jésus-Christ est Dieu. Mais mon Père, c'est bien ça, mais moi j'aimerais bien voir aujourd'hui des miracles. Pour être cet homme, cette femme convaincu des prochaines années dans une Suisse qui n'a plus de convictions religieuses catholiques. Eh bien, à Lourdes. À Lourdes, se passe encore ça. Et il y a les commissions des médecins. Il n'y en a pas 1 000, il y en a 15 000. Lisez les livres sur les miracles de Lourdes, les meilleurs travaux qu'il y en a sur le thème. Mais c'est capital. Il y a l'apparition de la Sainte Vierge, 1858, 4 ans après que le pape a déclaré les dogmes de l'Immaculée Conception. Il y a ce lieu-là, dans lequel Bernadette avait vu la Sainte Vierge, comment ça s'est passé des miracles incroyables. Alors il y a la persécution, il y a la police, les tribunaux, mais on ne peut rien faire. Et c'est le pape Saint-Pédis qui soumet désormais à un procès régulier ces miracles. Pour comprendre cela, je vous raconte l'histoire du padre Gemelli, fondateur de l'Université catholique de Milan. Il était socialiste, médecin, il s'est converti, s'est fait franciscain, il a fondé l'Université de Milan. Nous sommes au début des 1900. Vous savez, nous sommes à l'époque où la maçonnerie, avec son rationalisme, il veut mettre dans le monde entier l'idée que la raison humaine explique tout, qu'il n'y a pas les surnaturels, ça c'est pour les femmes, c'est les fanatiques, etc. Alors ils font toute une propagande du rationalisme, que la science, c'est la tour Eiffel, qu'on va bâtir, la science va résoudre tous les problèmes. Et alors, dès que commencent les miracles de Lourdes, la maçonnerie, le rationalisme est très fâché parce que ça dérange toutes ces propagandes que la science humaine est suffisante à expliquer tout. Ils vont faire un congrès à Milan avec les médecins anticléricaux. Mais pour quand même donner une apparence de scientifique, ils doivent inviter les côtés catholiques. Alors ils invitent le père Gemelli à défendre les côtés catholiques. Bon, ils commencent ces médecins à faire toute leur propagande. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les médecins anticléricaux? Ils peuvent faire deux choses. Ou nier le fait, ou expliquer avec la raison. Alors ils commencent à dire, ouais, peut-être ils ne sont pas tout vrais, etc. Et s'il y en a qui sont vrais, s'il y a des choses qui ont passé, c'est la radioactivité de l'eau de Lourdes, les émanations énergétiques du cœur humain, la psychologie collective, enfin, tout l'arsenal que le rationalisme a pour essayer de ne pas expliquer avec Dieu les miracles. Le père Gemelli, il les laisse parler. Après, il prend la parole. Il présente 2 cas. Un, c'était Pierre de Ruder, un paysan qui travaillait à la campagne. Un arbre était tombé sur la jambe. Il a coupé la jambe, cassé la jambe avec une blessure. À l'hôpital, c'était en Belgique. On fait la désinfection, on met le gesso, le plâtre. Mais 10 jours après, ça lui fait mal, on enlève, il y a l'infection. Nous sommes 1800 et demi. Il n'y a pas encore la pénicilline. On avait inventé, mais ce n'était pas encore en usage. Lorsqu'il y avait une gangrène, commence la gangrène, il n'y avait qu'une solution, couper. Autrement, c'était l'infection généralisée. L'homme, il n'a pas voulu. Non, non. Et pendant 8 ans, il y avait la blessure qui continuait à pourrir, c'est la gangrène, il était déjà pourri 3 cm et demi d'os. C'était sous les genoux, donc il y avait les tibias, les péronés qui sortaient de la blessure, et manquait 3 cm d'os. Lui, il va en pèlerinage avec les béquilles, à un sanctuaire de la Vierge, qu'ils ont fait les Belges, de Lourdes, à Ostaker. Ils ont fait la reconstruction de la grotte, etc. La chronologie dit, l'homme arrive, se sent très émotionné, il laisse tomber les béquilles, il commence à marcher. Sa femme, il le voit, il s'évanouit. Alors lui aussi se rend compte qu'il... Alors on va vite examiner. Eh bien, c'était le premier médecin qui avait fait la première analyse. Après, il y a eu tous les autres. La jambe qui était enflée par l'infection s'était désenflée. Tous les bandelettes étaient tombées. Les 2 blessures étaient cicatrisées. Et ce qui étonnait le plus, c'est qu'au tact, on sentait que là où il manquait 3 cm d'os, c'était créé immédiatement la matière. Toutes les documentations, etc., les médecins, tous les preuves. Les braves hommes, il est mort 25 ans après des pneumonies. Et vous savez bien que les médecins, ils attendaient sa mort pour lui sortir les os, pour aller voir ce qui s'était passé. Et en effet, si vous allez à Lourdes, vous allez au bureau des constatations médicales. Si vous êtes médecin, on vous donne tous les dossiers. Mais si vous n'êtes pas médecin, vous ne comprenez pas. Alors, vous pouvez voir quand même les musées des miracles de Lourdes. Et dès que vous rentrez, sur votre gauche, sur le mur, il y a une reproduction en bronze des deux os de M. Pedro de Ruder. Et on voit exactement les parties qui étaient miraculeusement créées à ce moment-là. Après, il présente un autre cas, là, une femme qui avait un cancer à la colonne, etc. Là, elle est lourde, la possession du Saint-Sacrement, bénédiction, ressuscité. Et non pas ressuscité, enfin, rétablit la colonne. Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus tenir debout. Alors, le père Gemelli, il parle à cette platée de médecins anticléricaux qui ne croient pas. Alors, il fait la conclusion, il dit, monsieur le médecin, pouvons-nous nier ces faits? Regardez ici toute la documentation, l'existence, c'est vraiment pas... Il y a tous les témoins, notaires, etc. Alors, l'autre solution, c'est d'expliquer avec la raison ces faits. Et il commence, la radioactivité de l'eau de Lourdes. Bon, c'est vrai que tout eau, il a de la radioactivité. Cependant, lève la main. Parmi vous, ceux qui croient que la radioactivité de l'eau peut créer 3 cm d'os. Personne ne lève la main. Il y a les émanations du corps, énergique du corps, ou la psychologie collective. Si vous voulez, nous allons choisir 10 types surdotés psychologiquement. On va les mettre ici, on va se concentrer. Ben, lève la main, ceux qui croient que ces hommes ils peuvent créer 3 cm d'os. Personne ne lève la main. Aucune, voilà, le père Gemelli, il fait passer toutes les forces qui connaissaient la science. Aucune des forces qui connaît la science, et vous êtes médecin pour le savoir, peut expliquer ces faits qui sont documentés. C'est terminé les congrès. Oh, bien sûr. Notre Père qui est au ciel, la Sainte Trinité, même aujourd'hui, il nous donne les preuves, les mêmes signes qui faisait Jésus-Christ, ressusciter des morts, créer la matière du rien. Parce que nous sachons, et Lourdes est sous l'Église catholique, n'est pas sur le protestantisme, n'est pas sur les musulmans, ce n'est pas les juifs qui ont Lourdes, c'est l'Église catholique romaine. Nous avons aujourd'hui les preuves pour confirmer notre foi, parce que le bon Dieu sait que nous sommes des hommes de peu de foi, parce qu'on ne fait pas exercice pour fortifier cette vertu. Que de fois notre Seigneur a reproché aux apôtres dans les vagues, hommes de peu de foi. Souvenez-vous, lorsqu'il y a la tempête sur la mer, il y a la barque qui commence à couler, il fait l'eau partout de côté. Ils étaient des marins, les pêcheurs, les apôtres. Mais enfin, c'était terrible. Ils sortaient l'eau avec des seaux, mais l'eau continuait à rentrer. Et la tempête, et la pluie, et les vents. À ce moment-là, c'est Pierre qui dit à Jean, Jésus était en train de dormir dans les bateaux. Il dit à Jean, réveille-le, réveille-le. Alors Jean, imaginez, c'est l'évangile qui nous donne tous les récits. Alors c'est tenant par les cordes, il s'approche là, dans ces petites cases où dort Jésus-Christ. Domine salvanos perimus. Seigneur, réveille-toi, nous sommes en train de couler. Et notre Seigneur sort, se met debout. Oh, il y a la tempête là, ils sont en train, l'eau qui rentre dans les bateaux, ils sont en train. Qu'est-ce qu'il dit notre Seigneur aux apôtres? Homme de peu de foi. Il y a les vents qui sifflent, hein, l'eau qui le baigne, notre Seigneur. Et après, il dit, tais-toi. La mer s'est calme d'un coup. C'est calme d'un coup. La tempête. Et alors, c'est beau lire dans l'Évangile, les apôtres disent, mais qui c'est celui-là? La mer lui obéit, les vents lui obéissent. Mais qui c'est? C'est pas facile pour des hommes comprendre Dieu qui s'est fait homme, le créateur des choses qui s'est fait homme. Il doit montrer par les miracles, par la suspension de la loi naturelle, que lui n'est pas un homme, mais c'est Dieu fait homme. Qui est celui? Mais que des fois notre Seigneur doit reprocher, homme de peu de foi. Alors les prochaines années, nous avons besoin de ces convictions. Nous avons besoin des Suisses, hommes suisses, femmes suisses, italiens, espagnols, enfin des catholiques, convaincus, parce que les gens, ils ont perdu la foi. Ils ne savent plus les preuves de l'existence de Dieu. Ils ne connaissent plus les preuves que nous avons si fortes pour démontrer que l'Église catholique est divine, à Lourdes. Et celui qui l'a fondée, Jésus-Christ, tu es pierre sur cette pierre, je fonderai mon Église, est Dieu. Alors nous devons résister dans cette nuit de l'histoire. C'est un moment, bien sûr. On a vu ce matin, hier on a fêté les 7 douleurs de la Sainte Vierge. Et parmi ces douleurs, Une de ces douleurs, c'est le dernier, la solitude. Lorsque les apôtres, pendant la passion de Jésus-Christ, perdent la foi. Et essayer de voir les regards des apôtres qui perdent la foi et qui regardent la Sainte Vierge. Ils se donnent des coups. Les apôtres, voilà, elles croient encore. Bien sûr, la maman, elle croit encore. Eux, ils avaient perdu la foi, comme les évêques qui vont avec les autres religions, les papes qui vont avec les autres religions, qui embrassent les Corans. Ils ont perdu la foi. Qu'est-ce que ça a été pour la Sainte Vierge, Vierge de regarder Pierre, Jean, Philippe, Matthieu et voir dans leur regard qu'ils avaient perdu la foi. On se rend compte. Il a regardé avec compassion. C'est la maman, oui, bien sûr, mais ils n'y croient plus. Qu'est-ce qu'il a dû souffrir? Qu'est-ce que nous allons souffrir les prochaines années? De voir tous ces Valaisans qui autrefois, ils avaient la foi. Pourquoi dans chaque village, il y a une église? À Jésus-Christ, ce n'est pas homme à homme. Parce que leurs aïeux, ils croyaient ferme qu'existait Dieu. Leurs aïeux, ils croyaient que Jésus-Christ est Dieu, que l'Église catholique romaine est l'unique divine. Alors, ils ont bâti dans tous les villages du Valais. Faire une église, ce n'est pas facile. Ils n'avaient pas tous les moyens qu'ils avaient maintenant. Ils passaient des années à faire les églises dans les villages. Il n'y a pas un village sans église. Il y a des églises sans village. Mais il n'y a pas un village sans église. Et maintenant, la révolution a réussi à enlever des cœurs des Valaisans, la foi. Ils n'y croient plus à Jésus-Christ. Ils gardent les églises, c'est joli, c'est de l'architecture un peu différente. Dans les villages, il y a Madame des Valaisans, il n'y a plus la croix, ils ne croient plus à Dieu. Ils ne croient plus à Jésus-Christ, à sa divinité. Ils ne croient plus que l'Église catholique est divine. Ils se laissent prendre par le modernisme. Ils vont faire l'écuménisme avec les autres religions. Qu'est-ce qu'il en est des Valaisans? Qu'est-ce qui reste de toi, Valais? Qu'est-ce qui reste de ta foi, Valais? Alors voilà le destin que nous avons. C'est de rester fidèles, nous, dans cette nuit de l'histoire, à croire, malgré qu'on sera environné des gens qui vous regardent. Pauvre petite, tu crois encore à ça? Tu es un peu fanatique, tu vois, tu es un peu dans l'obscurantisme. Il faudra supporter les regards d'incrédulité de ces gens qui se sont laissés prendre par l'erreur. Et bien sûr, la situation est grave parce que c'est l'autorité religieuse, c'est les évêques, c'est les papes qui marchent dans ce modernisme. Et alors, on a vu ce matin, on va insister un peu sur ça, la nécessité, surtout aujourd'hui, de répéter les actes de foi, d'espérance, de charité. Il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des vertus qui sont capitales. Les premières vertus, vertus théologales, foi, espérance et charité. Il y a des choses qui sont essentielles et des autres qui sont secondaires. Mais concentrez-vous sur l'essentiel. Il y a quelque chose dont on ne peut pas se passer, la foi. C'est comme le corps humain. Normalement, si vous avez faim, vous utilisez les pieds pour aller à la cuisine et manger. Mais si par hasard vous avez eu un accident de voiture et vous n'avez pas les pieds, comme il faut assurer la fonction de manger, qui c'est essentiel, vous vous tirez même avec les mains, hein, mais on arrive à la cuisine pour manger. Même, normalement, ce seraient les évêques qui doivent vous dire ces choses-là. Mais c'est les évêques qui ne vous disent pas ça. Il faut qu'il soit un curé qui passe. Et il faut que même vous, entre vous, vous souteniez dans la foi. Il y a quelque chose d'essentiel à assurer, c'est comme la nourriture pour le corps, c'est la foi pour l'âme. Normalement, je répète, c'est les papes, normalement c'est les évêques qui doivent nous enseigner. Mais s'ils ne le font plus, parce qu'ils ont été infiltrés par le modernisme, on se tire avec les mains, mais on va manger. Il faut nourrir notre âme avec la foi, cet esprit de foi. Alors prenez ces actes de foi, d'espérance et charité que vous trouvez dans les livres bleus et essayez de méditer pour saisir la portée de cet acte de foi. Je crois. Et quand je dis « je crois en Dieu », signifie que je refuse l'athéisme. Et quand je dis « je crois en Jésus-Christ », que c'est le credo, je dis « je refuse les autres religions ». Faites nettoyage dans votre âme, parce que beaucoup de gens y mettent un autel à Jésus-Christ et un autel au Bouddha, au Mahoma, à Luther. Ils font le syncrétisme. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque du relativisme, du syncrétisme, de l'irénisme, enfin différentes paroles pour dire la même chose. On met toutes les religions sur le même plan. On met les mêmes dieux comme s'ils pouvaient rester ensemble. Des fois dans l'Ancien Testament surtout. Dieu dit, enlevez les idoles devant moi. Je suis, quand il donne les 10 commandements à Moïse, les premiers commandements, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et dans d'autres endroits, il dit, ne mettez pas d'autre Dieu devant moi. Je suis votre papa, votre maman. Vous ne devez pas appeler papa et maman des idoles. Dieu est jaloux, il veut l'acte de foi vierge. Ça, c'est la virginité plus importante dans l'âme. Et on voit dans l'Ancien Testament, c'est vrai, hein, que chaque fois que les peuples d'Israël allaient avec les autres idoles des Cananéens, des Philistins, des Gébusins, Dieu parlait des adultères. Le vrai adultère, c'est l'apostasie de la foi. Lorsque, au lieu d'être fidèle à la Sainte Trinité, au lieu d'être fidèle à Jésus-Christ, au lieu d'être fidèle à l'Église catholique romaine, on commence à faire l'écuménisme avec les autres religions. Ça, c'est l'adultère dans la foi. Alors, nous devons garder cette virginité dans la foi. Lisez, relisez, méditez ces actes de foi. Les actes d'espérance. C'est nécessaire à notre époque, cette confiance en Dieu. Parce que, bien sûr, humainement, on ne voit pas grand-chose. On doit passer encore des années un peu en marchant dans cette ténèbre. Alors, nous devons nourrir notre cœur de cette confiance vers notre Père qui est au ciel. Ce qui s'appelle la voie de l'enfance spirituelle. Ce que la Sainte Vierge a permis qu'elle soit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a révélé au monde, le Père Barrière l'a insisté beaucoup, cette grande intuition qu'a eue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en regardant les enfants. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la confiance exagérée qu'ils ont les enfants vis-à-vis de leurs parents. Et c'est vrai, mais regardez la réalité. Un enfant de 2, 3, 4, 5 ans, il a une confiance exagérée à ses parents, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Alors, elle se rend compte de ça, il dit, mais regarde. Il donne des épreuves. Il dit, même lorsque la maman il dit au petit, tu vois, demain, petit a 4 ans, on va au dentiste. Non. Mais tous les enfants, ils sont allés au dentiste avec la maman. Pourquoi? Parce que l'enfant, il sait que même si ça lui fait mal, la maman le fait pour son bien. Alors elle dit, nous devons faire ça avec le bon Dieu, faire confiance. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Tout le monde est athée, l'Église est tombée dans le modernisme. Mais confiance, il n'y a pas peur, il faudra passer un peu avec les dentistes, mais après il sera bon. Si le bon Dieu le permet, lui laisser cette confiance que Dieu est Père, que Dieu est fort, que Dieu veut nous sauver, que Dieu a un désir infini de nous donner le paradis, de nous donner ses biens, c'est pour ça qu'il nous a créés. Et la preuve plus forte de la confiance, c'est lorsque le petit, il a 5 ans, il joue au ballon, dans le salon, le maman lui dit, arrête de jouer, attention, il y a le vase de cristal de la grand-mère, si tu me fais casser ça, je vais te tuer. Les petits, oui maman, et continue à jouer au ballon. Arrête de jouer au ballon, tu vas me casser les vases. Oui maman, et continue à jouer. Et un jour, ah, oh, le vase de cristal, très ancien chinois de la grand-mère. Je vais te tuer, je ne t'aime plus, tu verras ce soir, ton papa, il va te tuer. Et le petit, il sait qu'après les châtiments, tout reviendra comme avant. Sa maman va l'aimer comme avant. Bien sûr, à ce moment, il aime plus que le vase de cristal. Alors, Sainte Thérèse, il dit, nous devons faire ça avec le bon Dieu, même si on a cassé le vase de cristal. Cette confiance que Dieu est Père, notre Père qui est aux cieux, ça, c'est s'alimente d'abord pour la foi. Croire en Dieu, bien sûr, c'est capital. C'est pour ça que cet marxisme qui arrive fait perdre la confiance en Dieu, parce qu'il commence à douter. Alors, on ne peut plus nourrir dans notre âme cette confiance de la voie de l'enfant spirituel. Le pape Pie XI et Benoît XV, ils parlent de l'enfant spirituel, ils disent que ce n'est pas facultatif. C'est pour tous les chrétiens, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Cette attitude de confiance vis-à-vis de notre Père, même s'il y a ces ténèbres, même s'il y a les tsunamis, même s'il y a les tremblements de terre qui viendront, même s'il y aura la guerre atomique, je répète, même s'il y aura la guerre atomique, cette confiance, mon Dieu, vous savez pourquoi. Et un jour, nous devons passer à la mort. Et là, il faut faire cette grande acte de confiance, mon Dieu. Même les athées doivent mourir. Parce que s'il suffirait d'être athée pour ne pas mourir. Mais les cimetières, ils sont pleins des athées. Alors, nous devons aussi passer, nous devons
préparez avec une grande confiance. Mon Dieu, j'ai confiance en vous. Toute la vie, vous m'avez donné la lumière de la foi, et toutes les créatures, ils m'ont dit, Dieu, 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 et Dieu Père. Dieu m'a donné à manger du matin au soir. Alors cette confiance qu'ils ont les enfants, disait Sainte Thérèse d'Avila, nous devons la tenir vis-à-vis de mon Dieu. Voilà les actes de foi, les actes d'espérance, cette vertu qui nous unit directement au bon Dieu. Et si on pêche, on se sépare directement du bon Dieu. Et les actes de charité. Ces Valaisans qui ne croient plus à Dieu, ils ne l'aiment plus. Ils n'ont même plus cet amour des remerciements, que c'est l'amour plus facile, la gratitude. Et le bon Dieu nous demandera beaucoup de comptes de l'amour plus facile. L'amour de sacrifice, c'est difficile. Hein? Quand on voit une personne qui passe pour des preuves, on n'ose même pas regarder comment il va passer. Bon, il y a des âmes qui passent pour des preuves terribles. Mais l'amour de gratitude. Remercier le bon Dieu de se réveiller le matin. Remercier le bon Dieu d'exister. Remercier le bon Dieu de la nourriture qu'il nous donne trois fois par jour et peut-être plus. Remercier le bon Dieu de toutes les créatures qui nous font jouir du matin au soir, le lit du matin jusqu'au lit du soir. Tu n'as pas dit merci mon Dieu. Là on s'est apaisé. Hein? Attention, courage, vraisant. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Autrefois les gens ils avaient ça sur les lèvres. Si Dieu veut, grâce à Dieu, merci mon Dieu. Oui. Dieu vous aide, Dieu vous bénisse. Écoutez les Valaisans, maintenant, ils ne disent plus rien. Ils ont perdu la foi, ils sont tristes. Non, nous devons brûler d'amour de Dieu. Nous devons faire exercice des foi, exercice de confiance, exercice d'amour pour nous unir directement au bon Dieu. C'est le but de la vie. Vous êtes ici pourquoi? Pour gagner de l'argent? Pour faire des maisons? Pour acheter des voitures? Pour aller en vacances? Tout ça s'arrêtera. Votre argent, votre voiture, votre maison, ce sera les autres qui vont le prendre. Mais c'est à moi. Oui, mais quand vous êtes un cadavre, vous n'avez même plus les droits des propriétés. Une enfant conçue dans les seins de sa maman a déjà droit à la propriété. Mais lorsque vous êtes un cadavre, vous perdez toute la propriété. Mais la maison, c'est moi qui l'ai fait. Oui, 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 monsieur, mais vous n'êtes plus propriétaire. Mais la voiture, c'est moi qui l'ai achetée. Oui, mais vous n'êtes plus propriétaire, monsieur. Et faites attention même aux dents d'or, hein, parce qu'ils risquent de vous en enlever. On n'est plus propriétaire. On est mort. Alors, ces gens qui, pourquoi nous sommes ici? Ce n'est pas pour des choses matérielles, mais pour connaître que Dieu existe. L'aimer, le servir. Passer la journée à faire des actes de foi, de confiance, de charité. Et alors, connaître un peu toutes ces erreurs contraires, tout ce qui... Et surtout, bien sûr, c'est un peu notre vocation traditionnaliste de résister à ces erreurs modernistes qui sont en train de rentrer avec les conciles Vatican II. Merci mon Dieu d'avoir suscité Monseigneur Lefebvre. Où serais-je moi s'il n'y aurait pas eu Monseigneur Lefebvre? Où seriez-vous s'il n'y aurait pas eu Monseigneur Lefebvre? C'est notre médiateur près du bon Dieu. Si, moi je vous donne un conseil, vous pouvez un peu, mais faites comme vous voulez, mais toutes vos prières, faites-les passer par les mains de Monseigneur Lefebvre. C'est notre Père spirituel. Et on peut dire qu'il nous a engendré à conserver la foi à l'époque, au Concile Vatican II. 400 000 curés, on les a éliminés. Il est fort le diable. Avec un concile, il a réussi à mettre hors combat 400 000 curés. Ils disent la nouvelle messe philo-protestant. Ils acceptent tout le communisme. Les curés, 400 000. Et comment ça arrive que nous avons... C'est parce que Dieu a suscité une homme, hein, Monseigneur Lefebvre. N'ayez pas peur d'aller sur la tombe de Monseigneur Lefebvre, toucher un peu les marbres en disant, Monseigneur Lefebvre, gardez-moi dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Vous qui nous avez fait ces grands cadeaux à cette époque dans laquelle beaucoup, presque tous les gens, ils sont perdus dans la confusion, dans l'erreur. Alors nous avons un peu cette vocation de garder la foi dans une époque où même les évêques, les papes, pour l'autre chemin. Et nous devons faire un peu comme Saint Joseph, aujourd'hui c'est sa fête, n'est-ce pas, face au mystère de l'incarnation. Nous sommes face à un mystère. Comment c'est possible que l'Église catholique romaine a les promesses de Jésus-Christ qui a ressuscité des morts, qui nous donne encore des miracles à Lourdes? Regardez ces lèvres qui disent à Saint-Pierre, tu es pierre sur cette pierre, je vais fonder mon Église et les ports de l'enfer n'éprouveront pas contre elle. Mais de l'autre côté, on dit, mais regardez tout ce qu'ils font les évêques et les papes. Est-ce qu'ils ont réussi à prévoir contre l'Église? Non, il y a une promesse divine.
Seulement, Saint Joseph, il a trouvé la Sainte Vierge qui était enceinte après 3 mois, et on voit bien une femme qui est enceinte après 3 mois, sans rien savoir. Il a dû saisir les mystères, il a dû accepter de rester dans les ténèbres. Parce qu'en plus, l'Ancien Testament, il disait que la femme adultère doit être dénoncée à la synagogue et lapidée. Pourquoi il n'a pas fait Saint Joseph? Il était un libéral, il était un traditionnaliste, Saint Joseph. Il a fait, il s'est rendu compte qu'il était face au mystère. Il ne fallait pas toucher. Et Monseigneur Lafayette nous a dit, attention, nous sommes là. Le pape, c'est un mystère. Comment il peut faire des choses comme ça? C'est une chose de Dieu. Dieu avait droit de garder Saint Joseph dans les ténèbres. Et Dieu a droit de nous garder dans les ténèbres. Mais nous ne devons pas toucher les mystères. Nous devons respecter ces deux bouts de la chaîne. D'un côté, la promesse de Dieu fait homme, qui est l'enfer pourra pas contre les Romains, et de l'autre côté de la chaîne, dire ben, le pape est en train de détruire la foi. On ne peut pas renier les faits. Seulement, on ne sait pas comment cela peut se rejoindre, toute cette chaîne. Mais on doit rester comme ça, comme Saint Joseph. Ben, sur le point des pieds, alors, sur le point des pieds, c'est aujourd'hui que nous devons lui demander cette grâce. Grand Saint Joseph, patron de l'Église catholique, regardez en quelle époque des ténèbres nous sommes, nous devons vivre. Ne permettez pas que nous tombons dans l'erreur d'obéir. Si vous allez obéir au pape, à l'évêque, vous perdez la foi. Et alors, on va rester là, respecter les mystères, rester en point de pied. Et bien sûr, on a vu ce matin déjà qu'on nous avait prévenu de ça. Il y a eu des révélations privées, vraies, reconnues par l'Église, la Salette, la Vierge de la Salette, et les papes, ils ont reconnu que c'est vrai. Rome perdra la foi, va devenir le siège de l'Antichrist. Elle a dit, la Vierge. Alors préparez-vous, chers amis, je ne sais pas comment on se prépare à ça, mais s'il a dit qu'il deviendra le siège de l'Antichrist, Monseigneur Lefebvre, lorsqu'il va consacrer les 4 évêques, la lettre aux 4 évêques, il a dit, Monseigneur, attention, qu'à Rome, il y a des antichrists. La Sainte Vierge l'avait dit, la Salette. Alors, il ne faut pas accepter ce qui vient des antichrists, de ces modernistes qui mettent Jésus-Christ sur le même plan que les autres religions et tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous verrez, si Dieu veut, je vous demande toujours des prières. Vous savez que j'étudie l'Osservatore Romano. Chaque année, j'ai fait une revue de colonnes, ce que disaient les papes avant et ce qu'ils disent maintenant. Vous verrez la prochaine. Ils attaquent encore la Sainte Vierge pour faire plaisir aux protestants. Et maintenant, le chapitre plus important, c'est le deuxième chapitre sur la judaïsation de l'Église. Mais vous y croyez qu'ils sont en train de nous judaïser? Le cardinal Casper, par exemple, il a déclaré, il faisait les commentaires d'un décret du Saint-Office qui disait il ne faut pas faire de l'antisémitisme parce que de toute façon, le peuple juif, autrefois, c'était le peuple élu. Et le cardinal Casper, il a le courage de dire, non, moi je vous dis qu'il faut enlever l'autrefois. Je vous dis le peuple juif et le peuple élu. Comment le peuple élu? L'Église a toujours dit, autrefois c'était le peuple élu. Il y a un procès de judaïsation, et je vous donne seulement un exemple, mais il faut voir. Ils ont déjà essayé, les juifs, à l'époque de Saint-Pierre, vous lisez les actes des apôtres. Les judaïsants, c'était ceux qui ne pouvaient pas supporter Jésus-Christ et le Nouveau Testament. Alors ils voulaient récupérer quand même les apôtres au judaïsme. Ça s'appelait les judaïsants. Ils arrivent à convaincre Saint-Pierre, c'était déjà après la Pentecôte, au concile de Jérusalem, de réintroduire la circoncision pour les païens qui se font chrétiens. A dû se lever Saint-Paul et dire, Pierre, non, il y a le baptême, il n'y a plus la circoncision, ça c'est l'Ancien Testament, c'est terminé. Alors Saint-Pierre, il a compris. Mais vous voyez, la force qu'ils avaient, les judaïsants, ils veulent récupérer l'Église, la faire redevenir judaïsant comme l'Ancien Testament. Et ils sont en train de le faire maintenant. Ils sont en train de le faire. Alors, on ne sait pas jusqu'à quel moment ce mystère d'iniquité va travailler les évêques, les papes, etc. Mais enfin, la Sainte Vierge nous a prévenus. Même à Fatima, ce fameux 3 secrets de Fatima, maintenant elle est morte, sainte, on peut dire Sainte Lucie, la vraie Sainte Lucie. Alors, les 3e secret de Fatima, il y a un cardinal, le cardinal Oddi, qui aux années 1991, dans une revue italienne, fait une déclaration en disant Pour moi, dans les troisièmes secrets de Fatima, il est écrit qu'il viendra aux années 60 un concile duquel, contre toute attente, sortira les désordres de l'Église. C'est un cardinal qui vous dit ça, c'est pas une bonne femme qui voit la Sainte Vierge, c'est un cardinal. Déclare sur un journal les troisièmes secrets de Fatima, les conciles qui fera les désordres de l'Église. Un cardinal, cardinal Oddi. Ils nous ont passé un troisième secret de Fatima qui c'est pas vrai. Alors la Sainte Vierge nous a prévenu à la Salette, à Fatima, attention. Et alors le bon Dieu, et compassion de nous, il a suscité Monseigneur Lefebvre. Donc nous devons rester fidèles à ces combats. Et par quels moyens? Ce matin on a vu. La Sainte Vierge à Fatima nous dit aussi. Les deux derniers moyens que la Trinité donne au monde, je répète, je suis répétitif, vous le savez, c'est la dévotion au cœur immaculé et au rosaire. Alors n'allons pas par autre chemin. Concentrons-nous, les goûts, les sens aigus de l'essentiel, sur les deux choses qui vont fonctionner l'année 2005, 2010, 2020, 2030. Dévotion au cœur immaculé et chapelet. Parce que c'est sûr que ça va fonctionner. Les autres, on ne saura pas. S'il y aura encore l'église, s'il y aura la visible, s'il y aura les catacombes, parce qu'il y avait l'église à l'époque des Romains, mais on ne la voyait plus. Dans les catacombes, c'était l'église. S'il y aura encore la possibilité d'assister aux messes, on ne saura pas. L'année 2010, 2020, avec l'invasion islamique en plus. Mais on sait que la dévotion au cœur immaculé et au chapelet, au rosaire, fonctionnera toujours. Alors, étudiez les cœurs immaculés de Marie. Et je répète, lisez seulement les meilleurs livres écrits par les saints et les docteurs sur la Sainte Vierge. Le traité de la vraie dévotion, Saint-Louis-Grignan de Montfort. Les gloires de Marie, de Saint-Alphonse de Ligorie. Et les autres livres, Saint-Bernard, les écrits sur la Vierge, etc. Et tous les magistères romains jusqu'au concile sur la Sainte Vierge. Mais les papes, ils ont dit des choses incroyables sur la Sainte Vierge. Des choses qui, on pourrait dire, énormes. Pie XII, le 8 septembre 1953, pour voir comme lui, il exalte la Vierge, au contraire du pape qui, pour s'approcher des protestants, est en train de la tirer en bas. Jean-Paul II, le pape, il a dit, sur la croix, Jésus-Christ n'a pas proclamé formellement la maternité universelle. Comment? Tous les papes, ils avaient dit le contraire. Jean-Paul II, il a dit, c'est pas elle qui écrase la tête du serpent. Mais ça, c'est tout des tableaux que la Sainte Vierge écrase. Non, non, c'est pour faire plaisir aux protestants. C'est pas la femme de l'Apocalypse. Mais Pie XII, pour l'Assomption au ciel, la femme revêtue de ciel, c'est la femme de l'Apocalypse, c'est la Sainte Vierge. Vous voyez qu'est-ce qu'ils font, les papes, les évêques, pour s'approcher des protestants? Mais les papes avant, Pie XII, disaient, comme le déclare saint Thomas d'Aquin, la bienheureuse Vierge Marie, du fait d'être mère de Dieu, possède une dignité en quelque sorte infinie. Laissez-moi répéter ça. Vous ne savez pas comme c'est contraire à tous les erreurs. Elle possède une dignité en quelque sorte infinie. Ça vous libère de tous les protestants, ça vous libère de tous les rationalistes. La Sainte Vierge possède une dignité presque infinie, en quelque sorte infinie. Toujours Pie XII, l'11 octobre 1954, Jean Damascène en vint jusqu'à écrire cette phrase. La différence entre un serviteur de Dieu et sa mère est infinie. Léon XIII, d'heureuse mémoire, déclare que la bienheureuse Vierge Marie dispose d'un pouvoir presque sans limite. Et tous les fidèles chrétiens jouissent donc d'être soumis à l'empire de la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui dispose d'un pouvoir royal et brûle d'un amour maternel. Qu'est-ce qu'il doit brûler d'amour la Sainte Vierge au ciel? Et comme les gens ne la connaissent plus, ils la rabaissent, et vous restez les dernières qui vous l'aimez, mais tout son amour sera pour vous. Elle brûle d'amour maternel. Et même presque divin, un pouvoir presque divin de la Mère de Dieu, qui les tuteurs angéliques nous enseignent à lui attribuer. Ça pour dire combien les papes, ils ont exalté, toujours Pie XII, le 1er novembre 1954, que peuvent donc faire les chrétiens à cette heure où l'unité, la paix du monde, bien sûr, les sources mêmes de la vie sont en péril, sinon tourner le regard vers celle qui se montre a été revêtue de la puissance royale. L'Église applique à sa personne « per me reges regnant », ce qu'on disait de Jésus-Christ. Les rois règnent pour moi. L'Église l'applique à la Sainte Vierge. Cet empire des Maries, non seulement elle doit anéantir les plans ténébreux et les œuvres iniques de l'ennemi de l'humanité chrétienne, mais elle doit communiquer aussi aux hommes d'aujourd'hui quelque chose de son esprit régner au notre reine et notre dame, régner sur les gendres humains tout entiers, régner sur l'église, régner sur nos intelligences, régner sur les volontés, régner sur les cœurs, régner sur les individus et sur les familles et sur les sociétés et les nations, régner sur les routes, régner sur les places publiques, régner dans les cités, régner dans les villages. La royauté sociale de Jésus-Christ. Maintenant les papes libéraux, ils veulent plus. Hein. Vous voyez comme ils parlaient autrefois les papes. Il n'y a pas que ces papes d'aujourd'hui. Hein. Il y avait d'autres papes. Ils sont 263. Alors nous devons rester fidèles, n'est-ce pas, à cet esprit de l'Église et rentrer dans cette vision des choses. Nous rentrons dans l'époque de la Sainte Vierge. Nous rentrons dans un moment dans lequel la Trinité, c'est une des grandes thèses qui donne Saint-Louis Grignion de Montfort, va dévoiler la Sainte Vierge. Au moment où les fils des serpents sont au pouvoir dans le monde, nous sommes soumis à ces pouvoirs forts du monde entier, qu'ils soient les libéralisme satanique américain, que soit le marxisme satanique, que soit l'islamisme qui est dans la main de Satan. Au moment où les fils des serpents sont forts, c'est le moment où la Trinité a choisi, parce qu'elle a déjà dit hein, à Fatima, le cœur immaculé triomphera. Alors la Trinité va dévoiler, il va y avoir un phénomène historique qui va laisser tous les gens étonnés d'admiration. Comme c'était l'admiration, la création. Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, mais c'était... Mais vous imaginez, on a perdu cet esprit d'admiration. Se rendre compte d'exister. Nous, on est un peu habitués à exister. Non, il ne faut pas s'habituer. Il faut rester toujours l'admiration. J'existe. Bon. Et lorsqu'il y a eu l'incarnation, l'admiration des anges, les intelligents. Dieu fait homme. L'admiration. Si vous lisez cette si belle épître de la fête du Sacré-Cœur, Saint Paul aux Éphésiens, il dit que même les principautés, les dominations sont dans l'étonnement en voyant comme Dieu réalise son plan d'amour dans les siècles, il dévoile l'institution de l'Eucharistie, l'institution de la Sainte Vierge, l'institution du Pape. Enfin, eh bien, alors, Dieu fait des surprises historiques. La prochaine est déjà annoncée à Fatima. À la fin, le cœur immaculé triomphera. Alors, vous devez être conscient de ça. Dieu continue à exister, même si les Valaisans sont athées. Jésus-Christ continue à être l'unique vrai Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, même si les autres Valaisans y mettent toutes les religions sur le même plan. L'Église catholique romaine reste l'unique, divine, majestueuse, même si les papes la mettent sur le même plan que l'Église protestante, anglicane et orthodoxe. Nous devons garder cette... Et alors, s'attendre à cette manifestation historique. Nous devons être cette avant-garde. Mais comme il faut se préparer. Mais Saint Jean de la Croix, Saint-Louis Grignion de Montfort, il dit, il faut la connaître maintenant. Se consacrer à elle. Tous les matins, renouvelez votre consécration. Très simplement, Saint Vierge, je vous consacre mon âme et mon corps. Tous les matins. Et l'étudier. Prenez en main les traités de la vraie dévotion. Étudiez, méditez. Prenez en main les gloires de Marie. Étudiez, méditez, rédigez. Continuez à le relire tant que vous commencez à pénétrer la connaissance du cœur immaculé de Marie. Et, bien sûr, se consacrer comme des esclaves d'amour. Alors, nous allons nous mettre dans l'essence de l'Esprit Saint. Comme disait toujours le Père Barrière, n'est-ce pas? Allez dans l'essence, venez Esprit Saint. Remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez-en le feu de votre amour. Cette parole de l'Église qui nous donne une confiance dans cette puissance, cet amour de Dieu, c'est la grâce que nous allons demander. Nous préparons pour cette semaine sainte. Qui va commencer après-demain, en demandant à Saint-Joseph, aujourd'hui c'est sa fête, en demandant à Notre-Dame des Sept Douleurs, par les souffrances qu'elle a endurées, à tel point d'être co-rédemptrice. Le pape Pie XI utilise la parole co-rédemptrice, c'est le magistère romain. Ô Sainte Vierge, donnez-nous la grâce de vous accompagner dans cette passion de l'Église catholique, de rester fidèle à la foi de tous les papes, à la foi de tous les évêques, de tous les prêtres, de tous les valaisans d'autrefois, et de ne pas nous laisser prendre par ce modernisme, qu'il soit la grâce que vous nous allez nous donner les uns aux autres. Ainsi soit-il.